les paysans palestiniens depuis le début des années 2000 nous demandent s'il est possible d'envoyer là-bas des groupes de volontaires pour les aider à accéder aux parcelles dont les colons et l'armée israélienne leur interdisent l'accès. Ça a beau être des parcelles qui leur appartiennent, la logique de colonisation israélienne veut que il dissuade les gens d'accéder à leur propriété dans le but de les exproprier. Donc il y a un enjeu à ce que ils réaffirment systématiquement leur volonté de ne pas abandonner la terre.
Donc, en fait, tout ça se déroule sur un tout petit territoire qui est complètement contrôlé par Israël, son armée, ses milices du ministre fasciste Ben Gvir, là, et les colons qui sont armés, donc qu'on laisse être armés depuis des années, et à qui, dans la dernière période, le gouvernement israélien a distribué 20 000 fusils mitrailleurs.
La logique d'expropriation est celle-là. En Israël, la terre est sacralisée, elle devient terre juive. Donc le problème, c'est que ensuite, un Palestinien n'a plus aucune chance d'y construire quoi que ce soit. Aujourd'hui, en zone C, en Cisjordanie, par exemple, les zones théoriquement totalement contrôlées par l'État d'Israël à la suite des accords d'Oslo, aucun permis de construire n'a été donné à des Palestiniens, ne serait-ce que pour y installer, je ne sais pas moi, une étable, une crèche pour les bêtes dans la montagne. Tout est rigoureusement interdit par l'armée. Donc voilà, derrière ça, il y a vraiment cette logique d'épuration ethnique qui est à l'œuvre, en fait, depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Ça s'est d'abord décliné en Israël même, puis ensuite dans les territoires occupés palestiniens. Les 200 morts, là, ce n'est pas que dans les camps de réfugiés. Les 200 morts, c'est en Cisjordanie, on est à même autour de 220 maintenant. Ça concerne évidemment des gens qui vivent dans des camps, mais aussi des paysans qui vont cueillir leurs olives. Aujourd'hui, sans protection, par exemple, parce qu'il y a très peu d'internationaux qui ont réussi à se rendre sur place, tous les projets d'assistance ont été abandonnés. Aujourd'hui, les colons tirent sur les paysans, ou l'armée tire sur les paysans. Donc, il y a eu des morts pendant la cueillette des olives cette année.
Ah ben là, il faut se rendre compte que dans la situation actuelle, aucun endroit n'est sécurisé. Bien évidemment, à Gaza, c'est clair, mais en Cisjordanie non plus, et que plus personne ne peut protéger personne. Enfin, quand on se déplaçait avec les amis palestiniens, on courait les mêmes risques et on pouvait absolument pas les préserver de quoi que ce soit. Quand le 7 octobre, on a essayé d'aller voir... donc on était à Al-Hul. Al-Hul, c'est une ville qui touche Hébron. On a essayé d'aller voir à la sortie de la ville si c'était ouvert. Il y avait déjà des montagnes de terre dans l'après-midi, des gros blocs de pierre déposés, les barrières fermées. Et au Mirador, un soldat qui nous hurlait dessus, donc sur nous et les Palestiniens, de faire demi-tour, sinon il tirait, quoi. Là, en fait, tout le monde est en danger. Quand on a réussi à sortir de la ville de Ramallah pour aller à Zawiya, en fait, on était obligé pour partie de prendre des petits chemins dans la montagne avec la voiture ou des toutes petites routes. Et puis, il y a un endroit où on ne pouvait pas faire l'impasse de passer devant un checkpoint et un mirador parce que voilà, il n'y a pas d'autre chemin. Et le jour où on y est allé, en fait, on a eu de la chance parce qu'on est passé comme ça. Le lendemain, il y a un Palestinien qui est passé au même endroit, en voiture, mais il a fait comme nous, en fait. Et il s'est fait tirer dessus et il est mort. là, plus personne protège personne. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que la communauté internationale se rende compte que ce qui se passe aujourd'hui, c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité à Gaza. Il faut qu'il y ait une force d'interposition internationale, bien sûr un cessez-le-feu, la fin de la guerre, une force d'interposition internationale. Et pour que les choses ne se reproduisent pas de manière cyclique dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, avec à chaque fois de plus en plus de violence, il y a une seule solution, c'est le respect du droit international.
La première réaction, ça a été une réaction de consternation et de sidération, enfin les toutes premières, et des réactions aussi d'horreur, enfin je veux dire, face aux images, les toutes premières images qu'on a eues, c'est des images diffusées par la télévision israélienne où on voyait les morts autour de la bande de Gaza et tout ça. Donc ça, immédiatement, ça a déclenché des réactions. Nous, la personne chez qui on était disait, mais on fait pas ça aux gens, quoi. On fait pas ça à des enfants, à des femmes, à des vieux. Donc ça a été la toute première réaction. Et puis il y a eu cette phase qui a été une phase un peu bizarre. On se demandait ce qui allait se passer. Les gens s'attendaient au pire, mais ça se formulait pas. Enfin, il y a eu une période un peu flottante là, deux jours où puis on avait l'impression en plus que la réaction de l'armée israélienne tardait aussi. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils savaient pas comment s'y prendre. Quand les bombardements ont commencé à Gaza, et nous, il faut expliquer, enfin, on était là-bas, comme tout était bouclé, les gens ne pouvaient plus sortir de leur village, on était scotchés devant les télés et tout ça. On voyait les bombardements sur la bande de Gaza à la télé, et deux minutes après, on avait le bombardier qui passait au-dessus de la maison. Mais quand ça a bombardé, c'est-à-dire quand on a commencé à se rendre compte du massacre que c'était en train de devenir, ce qui se passait à Gaza, là les gens se sont révoltés, ils se sont lâchés, ils ont dit mais enfin oui alors d'accord il s'est passé ça mais là ce qui se passe aujourd'hui et puis ce qui s'est passé pour nous depuis tellement longtemps, je veux dire c'est pas le premier massacre à Gaza, il y en a eu d'autres, les tout premiers c'est en 1956, donc il faut pas avoir la mémoire courte non plus, l'histoire elle démarre pas le 7 octobre et là les gens se sont dit mais enfin c'est quand même pas possible, nous on n'existe pas. On n'est que des nombres. Quand on meurt ici, on est que des nombres sur dans des tableaux de statistiques. Donc en fait, il y a cette révolte-là aussi qui sort, qui dit que c'est insupportable, qu'il y ait deux niveaux de considération, deux poids, deux mesures dans la considération des humains là-bas. Ça ne peut pas continuer. Hein, c'est ça le. Alors, quand les gens ils parlent du Hamas, ils finissent par dire ben ouais, de toute façon, il fallait bien que quelque chose se passe puisque personne ne réagit, personne ne fait rien pour faire appliquer le droit ici. Inévitablement, ce genre de truc se produit puisque le monde ne nous voit pas, ne nous entend pas.
Alors, bien sûr, on ne peut que se réjouir qu'il y ait une pause, même de quelques heures, qu'il y ait des otages israéliens et palestiniens qui soient libérés, parce qu'on parle des otages israéliens, et clairement, c'est un crime de guerre de prendre des otages, mais on ne parle pas des otages palestiniens. Or, les femmes et les enfants prisonniers en Israël étaient prisonniers avant le 7 octobre, donc c'est bien aussi des otages. quand, par exemple, l'armée, elle rentre dans le camp de réfugiés de Déhéché et qu'elle arrête, elle enlève le fils du rédacteur en chef de la chaîne Al-Mayadine, c'est une prise d'otage pour faire pression sur un journaliste, en fait, pour que les choses... Voilà. Donc, il faut replacer les choses sur le plan international, sur le plan de la légalité. Les textes internationaux existent pour qualifier les crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Il y a apartheid aussi. Il y a des juges qui sont spécialisés, qui par exemple ont enquêté sur le génocide du Rwanda, qui maîtrisent très très bien toutes ces choses-là. Il faut qu'ils fassent leur travail. Mais le problème, c'est que Israël et les États-Unis n'ont pas reconnu la Cour pénale internationale et ne veulent pas qu'elle soit convoquée. Or, c'est vraiment urgent. Il faut arrêter la guerre. Il faut des enquêtes précises, que ce soit sur Israël et sur le Hamas. Et à terme, il faut le respect du droit. C'est vraiment les conditions basiques. Ce ne sont pas des militaires qu'ils ont essayé de détruire. C'est toute une population. Quand on bombarde des hôpitaux, c'est quoi ? La veille de notre départ, à l'hôpital Al-Shafi, il y a 39 bébés qui sont morts d'un coup. Plus d'électricité, plus de carburant pour faire fonctionner les générateurs. Ils ont fait quoi, les bébés de Gaza ? Ils ont fait quoi à Israël ? Voilà. Donc là, il est temps de se réveiller parce que, en fait, là, il y a 4-5 jours de pause. Mais en fait, si... Il n'y a pas des mesures très fermes de prise. Si les populations ne descendent pas dans la rue massivement pour dire « ça suffit », ça va reprendre. C'est l'horreur, quoi.